Alors, en direct des Renault Days à Porte de Versailles, Elio, acteur de référence de l'efficacité énergétique, répond à toutes vos questions. La rénovation énergétique, effectivement, est un problème complexe, sujet vaste, que ce soit d'ailleurs pour les particuliers ou les professionnels du bâtiment. Et Elio a récolté toutes vos questions à ce sujet. Donc c'est pour vous qu'on est là, pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, notre expert Elio, Étienne Duhaut, responsable de la rénovation globale et AEMO, assistant maîtrise d'ouvrage, bonjour Étienne, va vous répondre sur la thématique des rénovations des copropriétés et la loi climat. C'était la thématique qui avait été posée. Des questions ont été récoltées depuis déjà quelques jours, quelques semaines même. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de nous poser vos questions, n'hésitez pas en amont de ce live. Vous avez encore le temps. Il y aura plusieurs lives d'ici la fin de ces deux journées à Porte de Versailles dédiées à la rénovation énergétique. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site www.elio.com/questionreno. On attaque avec la première question pour vous, Étienne. Première question, je loue un logement classé G. Il est interdit, est-ce qu'il sera interdit à la location le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de mon bail?
Alors, c'est ce premier sujet, en effet, très intéressant. Là, on parle de loi climat et résilience. La loi climat et résilience a posé un cadre d'interdiction assez strict qui a déjà commencé puisqu'au 1er janvier 2023, tous les logements dont la consommation d'énergie primaire supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an sont déjà interdits à la location, sauf que il y avait une règle transitoire entre 2023 et 2025, oui, puisque cette règle indiquait que c'était pour tout nouveau bail conclu ou renouvelé entre ces deux périodes. Par contre, la règle du 1er janvier 2025 s'applique pour tous les G. Que les baux aient été conclus avant ou après, finalement la règle ne change pas, ils seront finalement interdits à la location. Donc en fait le calendrier est strict, il se restreint fortement. Les G globalement en France, ça représente 15% des logements à peu près, donc c'est pas rien. Et ensuite ça va continuer 2028-2034 pour espérer atteindre une consommation minimum égale à D à partir de 2034 pour tous les logements.
Du coup, une autre question. Donc, ce qui veut dire, pour répondre à ma question, est-ce qu'il est interdit dès le 1er janvier 2025 ou dès le renouvellement de mon bail?
Alors,
parce
du
que
coup,
là, vous m'avez exposé la loi, juste pour répondre à ma question.
Oui, voilà, je vais essayer de faire plus simple. Il sera interdit au 1er janvier 2025.
D'accord.
Voilà.
Simple, c'est clair. Tout logement classé G sera interdit à la location dès le 1er janvier 2025. Ça représente 15% des logements, ce qui est énorme aujourd'hui.
Oui, alors, ces 15% des logements, on se rend compte, notamment avec les nouveaux DPE, que ce chiffre a tendance à augmenter.
Oui.
Donc, on n'est pas à l'abri que ce soit plutôt 20%. On est entre les deux. Voilà. Donc, ensuite, il faut connaître la part de propriétaires bailleurs. On sait, par exemple, qu'en région parisienne, et notamment Paris Intramuros, on est plutôt à 30% des logements qui sont classés G. Donc, voilà, c'est colossal. En fait,
ça concerne colossal. Quasiment tout le monde. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les passoires thermiques. On est à plus de 5,2 millions de passoires thermiques en France.
Les logements F et G sont considérés comme passoires thermiques.
Exactement. Alors, deuxième question, on est soumis aux mêmes contraintes de vente et location dans les immeubles haussmanniens ou pas?
Alors, ma réponse va être très simple, oui. En fait, on n'a pas de, on a pas de dérogation. Alors, on va avoir des dérogations de type architectural ou patrimonial, c'est-à-dire si, je pourrais y revenir plus tard si on a un peu de temps, mais si on a un obstacle patrimonial, par exemple faire un ITE sur un bâtiment qui est devant le château de Versailles, évidemment on va plutôt l'éviter. Alors ITE, c'est isolation,
voilà,
par l'extérieur.
C'était ce que j'allais vous demander.
Ça, évidemment, on va l'éviter. Et du coup, oui, ça va faire obstacle à l'atteinte de la performance.
Oui.
Pour autant, un immeuble haussmannien n'a pas de raison de sortir. Si on peut arriver à faire des gestes individuels ou à l'intérieur des logements, eh bien, on va les préconiser, les favoriser pour qu'on puisse atteindre... alors, une rénovation performante, ça va être compliqué, mais au moins qu'on puisse sortir de l'état passoire et pouvoir continuer à les louer.
Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit comme rénovation performante? Est-ce que c'est une économie d'énergie d'au moins 55%? Est-ce que c'est une économie d'énergie de plus ou de moins?
Alors, c'est la définition de la rénovation performante, en effet, elle va avoir déjà comme critère de sortir de la lettre E minimum. Donc en fait, d'accord, on va atteindre au moins D et on va faire un gain énergétique au minimum de 55%.
Ok.
Et ensuite, en effet, on va avoir ce qu'on appelle l'atteinte du critère ou du label bâtiment basse consommation, mm-hmm, qui, ce critère, se correspondra plutôt à des logements qui atteignent la lettre A ou B au titre du DPE. Voilà.
Très clair. Et maintenant, si je suis un professionnel, si je suis un agent immobilier, comment est-ce que je peux aider mes clients sur les échéances de la loi climat?
Alors, déjà, il faut communiquer. Ça, c'est la première chose importante, c'est que en tant qu'agent immobilier, alors qu'on soit en transaction, en vente, ou qu'on soit en gestion, il faut communiquer auprès de nos clients pour les informer du calendrier. Si je suis en transaction, d'informer qu'il y a un nouvel outil aussi qui est mis en place qui s'appelle l'audit réglementaire, qui vient s'ajouter à l'audit, au DPE si jamais je suis un logement qui est classé F ou G de mémoire. Mm-hmm. Et ça, c'est applicable depuis le 1er avril. Et déjà, donc, c'est de communiquer et d'informer sur ce calendrier. Ensuite, le mot d'ordre en tant que professionnel de l'immobilier, c'est l'anticipation. Ouais. C'est un message que nous, Elio, on rabat en permanence, anticiper, anticiper, parce que 2025, c'est vraiment demain. On est en 2023. Les échéances tombent au 31 décembre 2024. C'est absolument demain. Je ne suis pas sûr que les professionnels de la rénovation énergétique soient tous calibrés pour pouvoir attaquer répondre. Le marché monstrueux que représentent les logements G en France. En tout cas, il y a un vrai effort à faire de ce côté-là. Et ensuite, je pense qu'un professionnel de l'immobilier doit aussi communiquer positivement sur la loi climat et résilience. Et c'est de faire aussi de cette contrainte une opportunité. Mmh. Et pour faire de la loi climat et résilience une opportunité, il faut communiquer sur quelle va être la valeur de mon bien après travaux et après rénovation énergétique. Cette valeur, elle va augmenter forcément, et elle peut augmenter de manière conséquente,
colossale. Mmh.
Surtout si on est dans des régions où le marché immobilier est moins tendu, du coup le critère énergétique va avoir un impact très fort. Et puis communiquer sur les aides. Aujourd'hui, il y a des aides à la réno et ces aides permettent de financer, alors tout c'est compliqué, mais au moins parfois une très grande partie du projet de rénovation.
Très grande partie, 60-70%?
C'est très variable, ça dépend du type de logement, de son état initial, mais on a parfois 100% des projets, notamment si on a des ménages qui sont en situation de précarité énergétique.
Oui.
Les aides de l'ANA peuvent venir compléter assez fortement les aides existantes. Et puis parfois, on arrive à financer, oui, 60-75%, 100% des cas si vraiment on a le logement idéal.
Avec un gain quand on gagne deux lettres qui peut aller jusqu'à 30% en termes de valeur de bien.
Oui, alors
la
valeur verte indique en moyenne un seul classe énergétique, c'est 5% d'augmentation de la valeur vénale. Donc en effet, si on fait un très gros gain, on peut aller à 25-30%, oui, en effet.
D'accord. Alors, une autre question, c'est le DPE qui détermine si mon logement est une passoire thermique ou non?
Alors oui, complètement. Hein. C'est le DPE qui fait foi et pas d'autres documents. Hein. C'est-à-dire que même aujourd'hui, un audit réglementaire n'a pas une valeur par rapport au DPE. C'est vraiment le DPE qui fait foi. Et ces DPE, du coup, il devient obligatoire, en effet, quand on vend. Et il devient obligatoire dans la location. Donc il faut aussi, en tant que propriétaire bailleur, s'assurer que mon DPE est toujours valable. Et ça, souvent, on se rend compte qu'on n'a pas de DPE parfois, ou on a des DPE vierges ou trop anciens, et du coup
un DPE est valable combien de temps?
Il est valable 10 ans.
D'accord.
Et s'il est ancien, la durée de validité est un peu moindre parce qu'ils ne seront plus valables au 31 décembre 2024. Donc
d'accord,
on n'aura plus d'anciens DPE. Un ancien DPE, c'est un DPE qui a été fait avant le 1er juillet 2021, c'était les anciens DPE. D'accord. Ensuite, on a le nouveau DPE, qui n'est plus très nouveau maintenant, qu'on commence à bien connaître, et qui, lui, du coup, est valable 10 ans.
Ok, très clair. Et comment se déroule une rénovation globale ? Ça prend combien de temps ?
Alors,
qu'est-ce qu'on appelle déjà rénovation globale ?
Alors, une rénovation globale, on en a parlé, c'est une rénovation qui permet d'atteindre un gain énergétique important. Je vais essayer d'aller assez vite, parce que c'est une rénovation qui nécessite d'avoir... un projet, on parlait d'anticipation tout à l'heure, bah, c'est typiquement le cas. C'est une rénovation qui va commencer par un audit énergétique, parfois même de rencontrer un acteur local comme mon accompagnateur Rénov, si on peut bénéficier d'avoir des aides publiques. Et ensuite, quand on a l'audit, on va pouvoir travailler sur un plan de financement, une ingénierie financière, trouver les entreprises de travaux. Et derrière, du coup, pouvoir lancer les travaux à partir du moment où l'ingénierie financière est bien montée, que les devis correspondent exactement aux préconisations de l'audit. Donc, on a un projet qui est...
séquencé, mais du coup, l'ingénierie financière prend à peu près combien de temps ?
Alors, si on est, par exemple, si on est sur une copropriété, parce que c'est un peu le sujet de ce live, une copropriété, par exemple, on va faire... l'audit énergétique, donc on va le valider en AG, forcément, ça prend un peu de temps. Ensuite, il va falloir trouver un AMO si on veut bénéficier des aides comme MaPrimeRénov copropriété. Donc, on va devoir attendre une nouvelle AG ou faire une AG extraordinaire. Donc, on a à nouveau un délai qui s'incrémente. Donc, on va parler plutôt d'un délai de 2-3 ans sur une copropriété.
Ok.
Pour qu'on puisse avoir des entreprises de travaux qui interviennent sur un plan de financement qui aura été validé par un AMO. Et cet AMO aura travaillé sur l'ensemble des thématiques qui sont attendues pour pouvoir bénéficier des aides publiques comme MaPrimeRénov copropriété et des aides C2E. Donc, c'est très long.
Ouais.
Voilà.
Ouais, oui.
C'est ce qu'il faut retenir. Sur une maison individuelle, c'est un projet qui va prendre plutôt 6 mois à 1 an. Mm-hmm. Et sur lesquels on va, pareil, séquencer audit énergétique. La plupart du temps, un AMO qui sera souvent un accompagnateur Rénov.
Oui.
Donc, il y a une instance locale qui a l'accréditation, qui a le pouvoir donné par l'ANA pour pouvoir intervenir sur les aides publiques. Et là, pareil, on va avoir des délais relativement longs, mais un peu plus maîtrisés, puisqu'on, évidemment, on ne met pas une AG sur la décision.
On ne remet pas le formalisme. Et du coup, si j'ai fait des travaux et je reste en G, qu'est-ce que j'ai comme solution ?
Alors,
comment est-ce que c'est possible déjà ?
Alors, c'est possible. Celle-là, à Paris, on a de plus en plus de propriétaires bailleurs qu'on accompagne. Malgré les travaux réalisés, ils ne sont pas sortis
de la catégorie
G. Alors, il y a deux choses. On en a parlé tout à l'heure du cadre dérogatoire. Si jamais j'ai une contrainte architecturale ou patrimoniale, mais ce n'est pas le sujet. L'autre sujet, ça va être la bonne foi. Il va falloir que le propriétaire bailleur apporte les preuves
qu'il a
tout tenté pour pouvoir sortir de l'état passoire. Donc, c'est un cadre dérogatoire qui est prévu par la loi climat et résilience.
Okay.
Alors, de mémoire, je crois que tout n'a pas été écrit encore. Donc, tout n'a pas été... Toutes les conditions dérogatoires n'ont pas été totalement écrites, mais de ce que l'on sait, c'est que le juge va avoir un pouvoir d'interprétation et va aller chercher la bonne foi ou non du propriétaire bailleur.
D'accord.
Et c'est là où c'est intéressant, parce que si je loue un appartement qui est en copropriété et que la copropriété a principalement des propriétaires bailleurs, ça va être difficile de prouver la bonne foi si on a beaucoup de propriétaires bailleurs qui sont censés plutôt voter pour des travaux.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est là où les propriétaires bailleurs vont commencer à être embêtés. Les monopropriétaires, donc ceux qui détiennent un immeuble en entier, vont être très embêtés, parce que ça va être difficile de prouver la bonne foi quand on est propriétaire de l'immeuble en entier. Et là, il va falloir faire des travaux qui sont importants. Donc, oui, on a des premiers cas. L'accompagnement par Elio, c'est ce qu'on indique un peu à nos partenaires, c'est que ça va être une preuve de bonne foi.
Oui, okay.
Puisque nous, on va faire l'ingénierie financière, l'ingénierie technique, et qu'on va démontrer que on a fait tout ce qui était
tout
en notre pouvoir pour pouvoir sortir et qu'on n'y est pas arrivé.
D'accord. Et du coup, quel est l'impact de mon accompagnateur Rénov, du coup, pour les copropriétés ?
Alors, mon accompagnateur Rénov n'a pas été pensé aujourd'hui pour la copro. Aujourd'hui, c'est un acteur qui se tourne vers le résidentiel, vers les ménages occupants et propriétaires ou locataires de résidences individuelles. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui a été prévu pour les copropriétés qui s'appelle, qui est un AMO en fait, qui est un un tiers de confiance qui est validé par l'ANA, qui n'est pas un accompagnateur rénov et qui peut intervenir sur l'ingénierie sociale, okay, entre autres, pas l'ingénierie technique parce que c'est un bureau d'études, mais qui va accompagner sur les aides, pouvoir mobiliser,
le dialogue, mobiliser,
voilà, exactement,
former,
préconiser, informer, exactement,
ouais,
et surtout remonter, parce que MaPrimeRénov copropriété a des dispositions particulières et du coup c'est cet AMO qui va s'assurer que on
tout
respecte bien les dispositions particulières pour pouvoir bénéficier des aides.
Ok, très clair. Et alors, quelles aides sont possibles pour la rénovation globale d'un logement locatif ?
Alors, aujourd'hui, un logement qui est loué bénéficie des aides certificats d'économie d'énergie qui permettent,
oui,
aujourd'hui, selon un gain énergétique, de pouvoir apporter un montant d'aide extrêmement variable parce que ça dépend de plein de facteurs, mais on va dire
des revenus, etc.
On va dire de 6 000 à 30 40 000 euros pour une maison individuelle. Et un propriétaire bailleur, en fonction de sa situation fiscale, peut également bénéficier des aides MaPrimeRénov. Et il peut bénéficier jusqu'à des aides jusqu'à 3 logements en plus de son logement pour financer la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov. Donc le propriétaire bailleur dispose aujourd'hui
de
deux socles d'aide.
De deux socles. Mmh.
Il y a aussi aujourd'hui des aides qui sont portées par Action Logement qui permettent de faciliter les aides, enfin qui apportent en fait un complément d'aide, mais qui dont la contrepartie est parfois le plafonnement des loyers. Voilà, donc contrepartie qui nécessite d'être bien évaluée en amont.
Et de l'ingénierie financière pour
exactement
le coup.
Mmh. Exactement.
J'ai un DPE verge. Dois-je le refaire pour savoir si mon logement sera interdit ou pas ?
Alors,
à la location, hein, bien sûr.
Alors, un DPE vierge, c'est un ancien DPE, puisque
oui,
aujourd'hui, au 1er juillet 2021, donc on ne peut plus avoir de DPE vierge, puisqu'on ne se base plus sur les consommations, en tout cas plus que sur les consommations, on se base aussi sur un relevé technique terrain. Donc un DPE vierge, il va être encore possible de pouvoir le mettre en avant, mais jusqu'au 31 décembre 2024. À partir de cette date-là, il ne sera plus possible d'avoir des anciens DPE, donc des DPE vierges, donc il faudra le refaire.
D'accord. Donc
par
jusqu'au
contre, si
31
un...
décembre 2024, je peux encore vendre mon logement avec un DPE vierge.
C'est possible s'il est encore valable.
Oui, d'accord.
S'il est encore valable, mais voilà, donc tout dépend de la date à laquelle il a été fait. S'il a été fait avant 2017, il n'est plus valable. S'il a été fait après 2017, il sera valable, mais qu'au 31 décembre 2024. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au 1er janvier 2025, date de la plus grosse,
oui,
interdiction du calendrier,
il
n'y aura
plus
d'anciens DPE. Voilà.
D'accord. Donc, quand même, conseil, refaites votre DPE, ça vous donne la vraie...
Bah oui, ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, conseil à apporter aux professionnels,
oui,
c'est anticiper. Et anticiper,
c'est
pas faire la veille de...
Et valoriser.
Exactement.
Parce qu'encore une fois, ces investissements vont apporter de la valeur au logement.
Exactement. Maintenant, c'est un grand mot et on sait que beaucoup de propriétaires bailleurs, notamment avec la pression fiscale récente, à Paris, c'est un sujet, on va pas remettre le sujet sur la table, mais c'est un très gros sujet. Parfois, la taxe d'habitation qui s'applique encore. On a vraiment de gros sujets fiscaux pour les propriétaires bailleurs. On vient rajouter à ça une pression,
oui,
de faire des travaux. Voilà. On a beaucoup de théories. La pratique fait que ça reste compliqué.
C'est compliqué.
Il est possible qu'on intervienne dans les mois qui viennent dans un contexte qui sera très tendu, notamment pour les premiers concernés qui sont les étudiants, les locataires qui vont voir un marché locatif baisser malheureusement à cause
et
de
alors,
ça.
Et alors, quel est le risque si je loue un logement qui est interdit à la location ?
Eh bien en fait il est indécent tout simplement, hein. C'est pas plus bête que ça. Aujourd'hui vous avez des critères d'indécence comme un logement qui est inférieur à 9 mètres carrés,
oui,
c'est un logement indécent. Vous en avez plusieurs. Eh bien aujourd'hui un logement qui est interdit, enfin qui est concerné par l'interdiction de location devient indécent. Donc en fait tout simplement on va pas demander à ce que le locataire arrête de payer son loyer. Par contre il va pouvoir aller en justice et astreindre son
propriétaire à faire les travaux.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est le juge qui va prendre la décision. Donc c'est soit suspendre le loyer, donc ça fait mal, soit suspendre la durée du bail, ça fait aussi un peu mal si le propriétaire veut avoir un autre projet. Et puis astreindre la réalisation de travaux, et cette astreinte peut être compliquée parce qu'elle peut être faite dans un délai imparti.
Merci beaucoup, Étienne. Ben, vous nous avez apporté beaucoup de réponses.
J'espère avoir été complet, surtout.
Oui, je pense qu'en tous les cas, c'était très clair. On a eu beaucoup de réponses. On est toujours en direct, du coup, des Rénaudais sur le stand de Elio, acteur de référence de l'efficacité énergétique. Et s'il vous reste des questions, ben, n'hésitez pas à aller sur notre site www.elio.com/questionsreno.fr.
Voilà. Ou venez nous visiter au stand, on se fera un plaisir de vous accueillir.
À très bientôt.
Merci.